Midi, grand reportage.
Nathalie Amar.
Et grand reportage est aujourd'hui au Niger, à Agadez, dans le nord, où l'on a assisté début septembre à des inondations sans précédent depuis plus de 30 ans. On en a vu d'ailleurs aussi en Côte d'Ivoire ou au Burkina Faso. Les précipitations très importantes enregistrées dans la région ont provoqué la crue des ouèdes qui ont inondé la ville. Et les maisons en terre d'Agadez n'y ont pas résisté. Le torrent a également dévasté des terres d'élevage et de maraîchage, emportant des milliers de têtes de bétail. Le bilan de ces inondations, 3 morts, mais il y a également des dizaines de milliers de sinistrés. Agadez, des inondations dans le désert, c'est un grand reportage de Raliou Ahmed Assalé. On écoute et on retrouve Raliou tout de suite après.
Agadez, la petite ville désertique au nord du Niger. L'oasis d'Agadez s'étend au pied des contreforts du massif de l'Aïr. Ici, les maisons sont construites en terre. Dans la nuit du 1er au 2 septembre, la ville s'est réveillée sous un déluge d'eau ruisselante. Les enfants pleurent pendant que leurs parents s'activent à leur sauver la vie. Le bruit des maisons qui s'écroulent fait croire à des explosions. On peut entendre aussi le cri de détresse des animaux emportés par les flots. Bilan officiel. 3 morts, 1 disparu, 79 000 sinistrés. Dans la cour de cette école où il a trouvé refuge avec sa famille, Amadou sèche du linge au soleil. Il raconte ce qu'il a vécu cette nuit-là.
On dormait, il était 3 heures du matin. C'est l'eau qui entrait dans la maison qui m'a réveillé. J'ai alors réveillé les enfants. On ne pouvait pas sortir. Il y avait beaucoup d'eau dehors. Le courant était trop fort. Ça pouvait nous faire tomber. Je suis monté sur un tonneau. Je prenais mes enfants et les passais au travers du mur de mon voisin. Heureusement que chez lui, c'est sécurisé, c'est en dur. C'est là-bas qu'on a trouvé refuge. Ma maison s'est écroulée avant même qu'il ne fasse jour. Nous n'avons pu sortir qu'avec ces habits que nous portons.
La tâche est immense pour la vingtaine de sapeurs-pompiers d'Agadez avec leurs moyens dérisoires. Ils n'ont pourtant pas dormi de la nuit. Adjudant-chef Baraïdi.
On a constitué des équipes qui sont reparties dans la ville. Leur mission est d'aider au déblai, comme la compagnie fait partie intégrante des forces armées nationales. Donc tout le monde a constaté dans la ville qu'on a été renforcé par les gardes du génie et aussi les fans et même certains corps de défense et de sécurité.
Au lendemain des inondations, le maire d'Agadez, qui se retrouve tout bonnement parmi les sinistrés, tente de faire face à la situation avec les maigres moyens de la collectivité. Abdoulaye Hamadilla.
Nous avons mis en tout cas les camions dont nous disposons en navette justement pour amener ces populations-là des lieux de sinistres vers les écoles. Les camions travaillent bien sûr toute la nuit, mais ils ne pouvaient pas arriver à bout justement de ce qu'il y avait comme nombre de sinistrés à Agadez. Nous avons d'ailleurs lancé un appel ce matin vers toutes les bonnes volontés, en tout cas, d'aider la commune justement à faire face justement à ces problèmes de logistique.
Ces débordements provoqués par la crue de la vallée de Teloa a inondé aussi des centaines d'hectares dans des zones de maraîchage et d'élevage au nord d'Agadez. C'est le cas de la zone de Tabelotte dont le maire Adam Efangal témoigne.
Là, à peu près, il s'agit de 1447 ménages qui sont concernés. C'est surtout la production maraîchère qui a été affectée. Il y a eu une destruction de 350 hectares. De cultures irriguées. Et à cela s'ajoute un nombre assez important de puits maraîchers qui sont effondrés. Comme vous le savez, que c'est avec des puits que se fait l'irrigation. donc tous ces puits s'effondrer et qui ont aussi une grande quantité de motopompes en tout cas qui ont été ensevelis.
Et concernant les nomades et les bétails?
Maintenant, effectivement, comme tout au long des vallées, il y a aussi des éleveurs, il y a 554 têtes de bétail qui sont soit morts suite à cette sensation ou emportés par, par les crues.
Quelques jours après les inondations, la distribution des vivres peut commencer. Le Programme alimentaire mondial a mis à disposition 300 tonnes de vivres pour les premières opérations d'urgence. C'est un soulagement pour Yacine qui peut enfin faire bouillir la marmite.
On a eu un sac de riz, 2 litres d'huile et des haricots. On a eu 2 couvertures avec la Croix-Rouge et un seau. Mais on n'a pas eu de tente.
3 semaines après les inondations, il y a encore des sinistrés qui n'ont pas été assistés. Toumbou s'est dit fatigué de faire des allers-retours, revenant toujours bredouille. Son nom ne figure pas sur la liste, lui répète-t-on.
Je passe toute la journée au soleil, j'erre d'un lieu de distribution à un autre, je reviens toujours les mains vides. Vous me voyez, je suis au soleil, c'est là que ma maison est tombée. Qu'ils nous donnent ne serait-ce que des tentes. Que pouvons-nous faire d'autre que observer? Notre espoir est placé en Dieu.
Un premier avion Hercule C-130 arrive de France avec du matériel offert par l'ONG internationale Shelterbox. John Dixa est son délégué.
Nous avons répondu à un appel aux urgences suite aux inondations sur la région d'Agadez. Et nous avons eu la chance de venir avec 15 tonnes de matériel, de quoi abriter 5000 personnes. Et nous avons été mis à notre disposition un avion militaire français qui a atterri carrément à Agadez.
Qu'est-ce que vous avez dans ce matériel?
Comme j'ai dit, principalement des tentes qui permettent à une famille de 10 personnes de retrouver donc abri. Également, nous avons des systèmes de purification d'eau. Nous avons des couvertures parce que même s'il fait chaud dans la journée, il fait froid dans la nuit. Et nous avons donc des ustensiles de cuisine principalement. Et là, nous nous trouvons actuellement dans le terrain de l'Alliance française où nous avons installé à peu près 600 personnes avec effectivement tout ce qui est sanitaire, eau, etc.
Un autre avion chargé d'aide atterrit à Agadez en provenance de Libye. Abdallah Anachi, consul de Libye à Agadez.
Ce don a été octroyé par le fonds libyen d'aide. Destiné aux populations qui ont subi la calamité. Donc, suite à les inondations qui ont eu lieu.
Il y a
Agadez les jours passés. Ça, c'est le deuxième cargo, le deuxième avion qui vient. Le premier était descendu à Niamey.
Concernant la gestion de ces aides, le ministre de l'Intérieur, Albadé Abouba, dépêché sur le terrain juste après les inondations, tient à avertir solennellement.
J'ai suffisamment mis en garde tous les intervenants pour que tout ce qui va être enregistré, autant au niveau de l'État qu'au niveau des différents partenaires, aille directement aux bénéficiaires et que toute personne ou toute structure qui tenterait de détourner cette aide ou cet appui à d'autres usages, celle-là, en tout cas, ou que ce soit une personne physique ou morale, en tout cas, elle nous trouvera sur son chemin.
Sur les sites où sont relogés les sinistrés, Médecins sans frontières apporte son assistance médicale. Pour le moment, rien de grave, assure Cristina Salvados du MSF Espagne.
Bon, en général, ce qu'on voit, c'est surtout on a quelques cas de diarrhée, des troubles gastro-entérites, des maladies cutanées aussi, bien sûr, des palus, mais c'est aussi un peu la saison, on pouvait s'y attendre. Et puis, voilà, un peu l'infection respiratoire aussi, mais en fait, les données qu'on a, les cas, le nombre des cas qu'on a, c'est assez stable. Il n'y a pas grand nombre de cas.
La coordonnatrice des affaires humanitaires pour les Nations Unies à Niamey a fait le déplacement d'Agadez. Elle est accompagnée de représentants de la coopération française et de l'Union européenne. Kharjata Londiaye.
Bien sûr, ce sinistre est exceptionnel, puisqu'on nous a dit que depuis 30 ou 40 ans, la région n'a pas connu un tel événement. Donc c'était normal que l'organisation ne soit pas parfaite au premier jour. Mais nous avons constaté qu'elle s'est améliorée au fil du temps et que donc nous avons pu visiter des centres d'installation où les comités constitués des personnes sinistrées elles-mêmes assistent les commissions et le comité régional dans la prise en charge des besoins. Déjà, le PNUD, depuis quelques années, avait l'habitude de financer des activités de reconstruction des habitats. Donc, nous allons renforcer cet appui. La coopération française ici présente a également exprimé son intention de contribuer au financement sur ce volet reconstruction. Et l'Union européenne en a fait de même pour le volet des infrastructures.
Cette crue exceptionnelle de la vallée de Teloa qui est submergée à Agadez est expliquée ici par le directeur régional des génies ruraux, Dubo Zanaïdou.
On peut dire que cette catastrophe est née de la pluviométrie exceptionnelle qu'on a enregistrée sur le bassin versant du Kori Teloa. Et comme nous le savons, le Kori Teloa, il prend sa source sur le mont Bagazen et ça se dirige vers l'Irazer. En traversant quelques quatre communes, Tabelote, Tirozérine, Dabaga, commune urbaine d'Agadez. Et donc ça touche un peu Ingal. Donc la pluviométrie exceptionnelle, qu'on peut qualifier de plus que trentenaire, donc s'est abattue sur le bassin versant donc, de ce cours d'eau. Donc il y a eu un débordement le long de ce cours d'eau qui fait plus de 200 km donc, pour arriver à l'Irazer. Et ce débordement qui a été vraiment violent, et compte tenu effectivement de l'importance de la pluviométrie.
Abdou Malam, chef de la station météo d'Agadez, rend le réchauffement climatique responsable de ces phénomènes météorologiques extrêmes.
Ce qui s'est passé tout récemment dans la région d'Agadez n'est que la conséquence donc, de ces changements climatiques. Vous savez, l'atmosphère n'a pas de frontières. Donc, la notion de changement climatique, là, elle résume tout. Et quelque part, ça s'est manifesté à Agadez et dans le même temps, vous avez suivi au Burkina, au Sénégal et après, même en Turquie. Ça veut dire qu'il y a certains aspects qui avant étaient maîtrisés, mais qui aujourd'hui relancent la recherche et les scientifiques à travers pas mal de programmes sont là en train de chercher à savoir qu'est-ce qui est réellement à la base du changement climatique et quelles solutions apporter.
Quelles mesures faut-il prendre pour éviter à l'avenir ce genre de drame? Le ministre de l'Intérieur, Albadé Abouba, a son idée.
Les populations bénéficiaires ou tous ceux qui seraient intéressés par l'acquisition de ces parcelles prennent également toutes les précautions pour éviter justement d'acquérir des parcelles qui vont être noyées du jour au lendemain parce qu'à partir du moment où ce sont des aléas qu'on ne maîtrise pas, on ne sait jamais à quel moment peut survenir le drame. Et attirer l'attention aussi donc des différents responsables communaux sur l'octroi des parcelles et les lotissements dans des zones qui sont des zones d'épandage et de courri ou des zones de ruissellement ou qui sont les mêmes carrément et simplement des lits de ces courri. Donc nous pensons que à partir de ces mêmes de cette situation, les uns et les autres sauront tirer les conséquences pour que nous ne retombions pas encore dans les mêmes travers.
Inondation dans le désert, Un grand reportage de Radio Ahmed Assalé, réalisation Boris Vichips.
Et Ralu Ahmed Assalé est à présent en ligne avec nous d'Agadez. Bonjour.
Bonjour Nathalie, bonjour à tous.
Alors il faut peut-être d'abord expliquer, Ralu, qu'à l'origine de ces inondations, il y a bien sûr les pluies, mais il y a aussi la rupture d'une digue.
Bah oui, c'est une digue qui date de l'époque coloniale. Elle a été renforcée dans les années 70 pour mieux protéger la ville d'Agadez. Cette digue qui a cédé n'explique pas, vous l'avez dit, à elle seule l'ampleur des dégâts. De nombreuses maisons, Nathalie, de maisons effondrées sont construites en fait sur les lits du cours d'eau, avec souvent l'autorisation de la municipalité ou des chefs coutumiers. Mais au lendemain des inondations, la mairie d'Agadez avait sorti un arrêté interdisant toute construction donc dans ces zones inondées. Cet arrêté de la mairie, on peut le dire, est d'ores et déjà foulé aux pieds par certains, Nathalie.
Alors suite à ces inondations, vous nous dites, Ralu, dans le reportage, que tous les sinistrés n'ont pas reçu de l'aide, même si un grand élan de solidarité s'est manifesté à travers tout le pays.
Ah oui, c'est Agent Mamadou, le président de la République, qui est apparu lui-même à la télévision nationale quelques jours après les inondations. Il avait appelé tout le pays à venir en aide aux populations sinistrées d'Agadez. Depuis ce message à la nation, les sociétés d'État, les agents des ministères, toutes sortes d'institutions, d'organisations se manifestent pour annoncer sa contribution. La télévision nationale y consacre d'ailleurs chaque soir des longs moments. Les pays amis aussi, comme le Maroc, l'Algérie, la Libye, ont envoyé donc des vivres pour les populations sinistrées d'Agadez. Alors les sinistrés, eux, ils voyaient tout ça à la télévision nationale. Ils se demandent si ces aides-là vont leur parvenir effectivement. C'est là la question.
Est-ce qu'après les dégâts causés par les eaux sur les maisons en terre d'Agadez, on peut déjà là-bas parler de reconstruction?
Bah oui, le programme des Nations Unies pour le développement, plus de la coopération française, l'Union européenne sont les premiers à annoncer leur intérêt pour la reconstruction des habitations tombées et des infrastructures touchées à Agadez. Mais il reste à déterminer comment et quand se fera cette reconstruction. En attendant, les sinistrés, les sans-abri sont dans des tentes, dans des campements établis un peu partout à travers Agadez. Encore que ce n'est pas tous les sinistrés qui ont reçu cette fameuse tente pour s'abriter, Nathalie.
Merci beaucoup, Ralu Ahmed Assalé. Agadez, des inondations dans le désert. Un grand reportage que vous pouvez retrouver à tout instant en son et en images sur le site internet de Radio France Internationale. Je vous rappelle l'adresse www.rfi.fr. Il faut cliquer sur l'onglet magazine et vous retrouverez donc ce grand reportage et tous les autres que vous pouvez entendre sur l'antenne d'RFI. Demain, nous serons avec Gabriel Kahn au Sud-Soudan pour notre grand reportage du jour. À retrouver également sur le site RFI.fr, dossier spécial sur les violences en Guinée. Une semaine après la répression sanglante du rassemblement de l'opposition dans le stade de Conakry, dossier spécial avec bien sûr la médiation aussi de Blaise Compaoré qui propose à la junte et à l'opposition de se retrouver pour renouer le dialogue à Ouagadougou. Bye.